On s'enjaille à Abidjan, on tombe en amour à Montréal, on attend le bus sous une aubette à Bruxelles, tandis qu'à Dakar, les frimeurs Dallas, comme dans la série télévisée. Il existe mille et une façons de parler français dans le monde. Comment les peuples se sont-ils appropriés la langue de Molière? La suprématie du bon français de Paris, entre guillemets, a-t-elle disparu? Embarquement immédiat pour un petit voyage en francophonie métissée.
De vive voix.
Chantal Laureau.
Marie Verdier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien La Croix et vous avez dirigé un ouvrage collectif, Le Tour du Monde du Français, paru à la librairie Vuibert. Le livre rassemble une quinzaine de reportages sur les parlers français d'ailleurs, des reportages publiés entre 2017 et 2019 dans votre journal. Comment est née l'idée de cette série de reportages qui nous conduit d'Algérie à la Nouvelle-Orléans, de Kigali à Pondichéry, du Liban à Madagascar en passant par la Suisse et le Vatican?
Oui, l'idée est venue tout simplement parce que au journal, moi je m'occupe notamment de toute l'Afrique du Nord et que le français y est parlé, à part en Égypte ou si peu en Égypte, et que je me suis rendu compte en rencontrant les personnes lors de mes reportages que le français était un sujet de discussion toujours très sensible, très passionnel, on l'adore, on le déteste, politiquement il est encore toujours débattu dans beaucoup de pays, et je me suis dit, on se rend pas compte de ça à vue de France, et puis les personnes aussi souffrent souvent justement de cette, comme vous évoquiez, de cette suprématie du français de France, pour ne pas dire du français de Paris. Beaucoup ont envie de s'en distancier, et heureusement le font d'ailleurs, mais le poids de l'histoire est encore très présent, le poids de la langue, le poids évidemment de la colonie pour les anciennes puissances coloniales. Donc tout ça faisait que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à raconter.
Et est-ce qu'on peut en tirer un bulletin de santé du français dans le monde? Vous écrivez que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, prédit aux Français un avenir un peu trop rose.
Oui, parce que l'Organisation internationale de la francophonie estime en gros qu'il y a 300 millions de locuteurs francophones dans le monde aujourd'hui, et elle table sur 800 millions en 2050, c'est-à-dire juste dans 30 ans. Ces projections, elles sont corrélées directement à la croissance démographique. Il m'a semblé tout à fait optimiste et, pour ne pas dire presque déplacé, de corréler forcément les deux choses, parce que le français ne se transmet pas que par la naissance, il y a beaucoup d'autres raisons de l'abandonner ou de lui choisir d'autres langues.
On va y revenir.
Il paraît que tu as eu un grand rendez-vous avec ce bêta d'Hervé.
Décidément, les nouvelles vont vite dans ce quartier. Oh.
Tu t'inquiètes pourquoi même? On sait que c'était pour couvrir Bintou.
Je sais qu'à Yop City, là, il faut avoir peur de la bouche des gens.
Eh aïe! Ce n'est que ma bouche qui dit ça. Tu as vu Bintou? Elle fait quoi en ce moment?
Elle doit être en pleine négociation pour son avenir.
Ah bon? Ouais, elle est bien haut. Elle va avoir du travail alors.
Salut les filles.
Hé, hey, Mamadou.
Je passais par là.
C'est gentil de venir me rendre visite. Tu connais Aya?
Oui, ça va Aya?
Bon, je vais partir, Adjoa.
Déjà? Attends, je vais te pousser jusqu'à la porte. Assieds-toi, Mamadou, j'arrive.
C'est pas un gars de Bintou, celui-là?
Oui, mais comme elle est séquestrée, il s'ennuie, alors il vient me voir.
Ah, parce que t'es comédienne à tes heures perdues. Tu distrais les gens.
Aya, tu veux dire quoi comme ça? Arrête de m'embrouiller avec ton français, hein?
Mais pourquoi tu te fâches? C'est pas palabre.
Tu crois que quoi? Que c'est toi seule qui a la cervelle de tout le quartier pour parler gros français compliqué?
Dépose-moi au Adjoa. Si tu es toujours malade, là, passe voir ma vieille. Salut.
C'est ça, salut.
Un extrait du film Aya de Yopougon de Marguerite Aboué et Clément Oubrerie. Marie Verdier, avec ce livre Le Tour du Monde du Français, vous vouliez aller au-delà des locutions savoureuses, de la truculence de certains parlers français d'ailleurs, comme celui comme le français d'Abidjan qu'on vient d'entendre.
Oui, bah, C'est très jouissif de l'entendre, d'entendre ces Français variés d'un pays à l'autre. Mais l'idée était plutôt de se dire, d'essayer de comprendre comment le français s'était implanté dans les pays, comment il s'était développé, comment il est enseigné, comment les gens le vivent, comment les politiques se l'approprient ou veulent s'en dessaisir. Voilà, d'essayer de dresser un tableau de l'état du français dans le monde, en donnant bien sûr la parole aux premiers intéressés.
Alors, on dit tout le temps que le français est en voie de disparition ou serait menacé de disparition. Quels sont les handicaps de cette langue française par rapport à la concurrence de l'anglais qui, lui, est toujours en expansion ?
Il a beaucoup de handicaps, à dire vrai. Ça n'empêche pas qu'il ait peut-être aussi un avenir, heureusement. Mais côté handicap, je dirais d'abord cette suprématie du français de France, cette obligation de parler un français parfait. Il y a une insécurité linguistique autour du français que l'on retrouve là, pour le coup, à peu près dans tous les pays. Les gens ont peur de mal parler. Mais vous rencontrez des gens qui parlent anglais, qui ont peur de mal parler anglais ? Pas du tout. Les gens s'approprient l'anglais, le maltraitent, le tripatouillent, mais s'en servent pour s'exprimer. Le français, il faut le parler excellemment, sinon on se tait. Mais je vous dirais, même le pape François, il n'ose pas s'exprimer en français, pourtant
il le comprend parfaitement.
Il le comprend, il peut s'exprimer, mais lui-même, il est inhibé. Le français inhibe. Ça, c'est un handicap. On pourrait dire aussi que l'autre handicap, c'est le fait que c'est une langue la plupart du temps réservée à une élite. Donc c'est l'élite qui est francophone, qui s'accapare toutes les hautes sphères de la société, publique, privée, politique, et du coup, une grande partie des populations, on verra ça à Haïti, on verra ça à Madagascar, on voit ça au Maroc, etc. Une grande partie de la population, finalement, maîtrise pas le français et exclue du marché de l'emploi, exclue de la progression sociale. Ça, c'est un gros handicap aussi.
Parce que le français est enseigné dans des bonnes écoles et les bonnes écoles, ça coûte cher.
En général, oui.
Et est-ce que le français ne souffre pas aussi d'un manque de pragmatisme, par exemple par rapport à l'évolution de la langue ? Je pense à la bataille autour de l'orthographe aussi.
Oui, bien sûr. La France a vraiment œuvré contre ça, parce que par exemple, on voit nos voisins belges qui eux-mêmes sont favorables à la réforme de l'orthographe depuis de longues années, qui eux-mêmes avaient œuvré pour la féminisation des noms de métiers, etc. La France est complètement arc-boutée en disant aux Belges, mais de quel droit vous faites évoluer la langue ? Elle doit rester en l'état. Mais bon, heureusement, on commence à desserrer l'étau, mais c'est vrai que du coup, ça a été un vrai handicap et il y a encore des séquelles.
Vous racontez d'ailleurs, et ça ne manque pas de sel, comment la Belgique en 94 donc a essuyé les vertes réprimandes de Maurice Druon, qui était à l'époque le secrétaire perpétuel de l'Académie française, pour avoir voulu donc féminiser les noms de métiers.
Oui, il s'est adressé directement à l'Académie royale de Belgique en disant « Mais de quel droit vous vous permettez de faire ça ? Je vous demande, s'il vous plaît, d'empêcher cette évolution en Belgique. »
Parce qu'il la jugeait choquante.
Ah oui,
et,
mais alors il oubliait quand même, en dépit de tout le respect qu'on lui doit, il oubliait quand même que l'Académie française n'a pas toujours existé, que le français existait bien avant l'Académie française et que le nom de métier féminin existait aussi avant l'Académie française, avant que celle-ci y renonce. C'est juste rendre justice à l'histoire et au fait que quand même on pouvait être une écrivaine au Moyen-Âge.
Et d'ailleurs, il aura fallu attendre 25 ans, donc soit février 2019 de cette année, pour que les académiciens acceptent non pas de féminiser les noms de métiers, mais de les reféminiser.
Ben voilà, reféminiser parce que ça a existé. Il y a eu finalement un machisme de la langue qui a fait que on a estimé que le masculin était la seule noblesse.
Et l'ironie de l'histoire aussi, c'est que les Belges et les Suisses ont parlé excellemment bien français avant nous, les Français.
Oui, on suppose, alors on ne sait pas très bien, on suppose que le lieu de naissance du français était en Wallonie. Bon, il y a encore un petit doute. Et en tout cas, la Suisse, effectivement, était une terre d'excellence de la langue française et les noblesses de différents pays venaient y recruter leurs nourrices et leurs instituteurs pour leurs enfants parce que la France était totalement patoisante à l'époque, mais finalement, c'était les intellectuels protestants essentiellement qui avaient été contraints de fuir la France et qui avaient embarqué dans leur valise un bon français qui s'était chargé de diffuser sur place.
Et vous remontez même au XVIIe siècle avec ce prêtre féministe, assez étonnant, un prêtre féministe converti au protestantisme, Poulain de la Barre, qui s'étonne qu'à Genève, on prononce mieux le français que dans plusieurs provinces françaises.
Voilà, y compris à Paris, voilà, parce que à l'époque, la France était patoisante.
Extrait du nouvel album éponyme du Belge Arnaud. Santé Boutique, c'est un belgicisme et les belgicismes n'ont pas toujours été en cours en Belgique.
Non, pas du tout. Les Belges, ils étaient très traumatisés à l'idée de mal parler le français et dans la presse.
On en revient à l'insécurité linguistique.
Absolument. Dans la presse, il y avait plein de rubriques intitulées « Dites, ne dites pas » pour corriger les personnes pour s'assurer qu'elle parle un bon français au quotidien. C'est incroyable quand on y pense.
Alors, le cas des anciennes colonies françaises est très intéressant. Près de 60 ans après les indépendances, comment la langue française est-elle perçue dans des pays comme l'Algérie et le Maroc? Est-ce qu'elle reste la langue du colonisateur ou est-ce qu'elle est un précieux butin de guerre, comme le disait l'écrivain algérien et kabyle Kateb Yassine?
Elle est les deux. Elle est les deux, absolument. Mais le débat est encore extrêmement vif. C'est pas dans le livre parce que c'était cet été après le rendu du manuscrit, mais le ministre de l'enseignement supérieur algérien a déclaré en juillet dernier que le français ne menait nulle part et qu'il était urgent maintenant que l'université se mette à l'anglais. Donc vous voyez, c'est encore du débat très vif. Il y a eu donc après toute la période d'arabisation de l'enseignement, finalement un retour vers le français, mais un retour qui est encore débattu. Les Marocains, ils essayent aussi de remettre le français à l'école parce que l'enseignement supérieur est resté francophone, d'où le fait de cette élite francophone dont on parlait tout à l'heure, finalement, la seule qui accède à l'université et qui apprend en français alors que les autres restent sur le bas-côté. Donc le Maroc essaye de remettre du français dans l'enseignement, mais ça fait pas du tout l'unanimité, hein, parce que c'est non seulement la langue du colonisateur, mais la langue, elle est chargée de son histoire, bien sûr, elle est chargée aussi de son image, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui sont positifs, c'est la langue des laïcs, ceux qui sont hostiles, c'est la langue des mécréants. C'est quand même pas une petite histoire dans les pays du Maghreb de considérer la langue comme une langue de mécréants.
Pourquoi est-ce que les politiques d'arabisation de l'enseignement mises en place après les indépendances ont échoué aussi bien en Algérie qu'au Maroc? Peut-être un peu plus en Algérie qu'au Maroc.
Au Maroc aussi, pour plusieurs raisons. D'abord, la population était, en tout cas au Maroc, mais non, aussi en Algérie, largement berbérophone, déjà. Donc, où parlait un arabe dialectal. Et on a décidé d'imposer l'arabe classique, la langue du Coran, à l'école. Mais donc on a eu des enfants qui arrivaient à l'école primaire, qui connaissaient pas l'arabe, et forcément c'était un échec, ça n'a pas du tout été préparé, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même là un avis généralisé sur la planète que on ne peut commencer bien les premiers apprentissages que dans sa langue maternelle. Ça, c'est, je pense, maintenant un constat qui est largement partagé, et que ce soit l'arabe, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit n'importe quelle langue, elle doit venir en second dans les apprentissages.
Et un sociolinguiste à l'université d'Oran, dans votre livre, qui s'appelle Rabé Seba, souligne un paradoxe. Malgré la volonté du pouvoir d'arabiser l'enseignement, l'école algérienne indépendante a fait plus pour la langue française que la France en 130 ans de colonisation.
Oui, parce que pendant la période de la colonisation en Algérie, ça a été une vraie tragédie, l'enseignement. C'est-à-dire que très, très, très peu d'enfants ont été scolarisés. Et au moment de... Finalement, il y a eu un tout petit coup d'accélérateur uniquement pendant les années de guerre, parce que c'était devenu un enjeu, justement, de se dire, c'est peut-être un moyen un peu de garder le pays, mais
avant, il fallait cantonner les coloniser
L'opposition venait pour beaucoup des colons sur place qui voulaient pas que l'instruction libère les esprits, finalement.
Et apporte la révolte. Alors, l'échec de l'arabisation, l'humoriste algérien Fellag en a tiré une conclusion: les Algériens sont devenus des analphabètes trilingues.
Les Français sont restés 132 ans chez nous. Ils n'ont même pas appris le mot pour nous dire au revoir. Et nous, par fierté, on a décidé d'attendre qu'ils partent pour apprendre le français. Ce qui fait que maintenant c'est tellement mélangé, on ne sait même plus comment appeler la langue qu'on parle. C'est pas du français, c'est pas de l'arabe, c'est pas du berbère. Et si par malheur on dit que c'est du créole, on est mort.
Voilà l'humoriste algérien Fellag. À Madagascar, il y a eu la politique de malgachisation qui a échoué, elle aussi. À peine 5% de la population maîtrise vraiment le français. Et le paradoxe, là encore, c'est qu'il faut parler français pour accéder à l'université et trouver un bon emploi.
Absolument. Et alors, Je suis allée dans des écoles à Madagascar et c'était pathétique parce que il y avait des jeunes instituteurs et jeunes institutrices qui devaient apprendre le français aux élèves et qui eux-mêmes ne le maîtrisaient pas du tout. Ils avaient des manuels scolaires sous les yeux et en fait, ils parlaient en malgache et puis ils essayaient de lire les petits résumés en français. Alors évidemment que les apprentissages ne peuvent pas marcher comme ça. Bien sûr, c'est un échec autant que l'arabisation, la malgachisation est un échec. Mais en revanche, il y a quand même un certain nombre de jeunes qui arrivent à maîtriser le français, et pas seulement les enfants de l'élite, mais quand ils se mettent à parler français, c'est absolument saisissant. Ils parlent un français, mais comme si c'était à Paris. Et d'ailleurs, c'est devenu une terre privilégiée pour les centres d'appel. On n'imagine pas ici, finalement, que si vous appelez pour demander l'adresse d'un restaurant ou je ne sais quoi, c'est quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, à Madagascar, qui vous répond au téléphone comme s'il était à deux pas de vous.
Ça veut dire que les pays du Maghreb, qui où avant s'étaient implantés pas mal de centres d'appel, sont aujourd'hui délaissés au profit de Madagascar.
En partie, pas totalement bien sûr, mais pour deux raisons. D'abord, c'est la main d'œuvre à prix cassé, voilà. Donc c'est encore moins cher que le Maghreb. Donc ça, c'est une raison. Et puis la deuxième raison, c'est ce français vu d'ici qui serait qualifié d'excellent, alors qu'au Maghreb, comme vous l'avez, on l'a entendu, c'est très plaisant, mais on sent les intonations. Voilà, et donc c'est pour tromper finalement les personnes au téléphone, leur faire croire qu'ils sont aux portes de Paris.
Alors c'est un peu anecdotique, mais il existe un endroit où, d'après l'enquête de Nicolas Senez, le français a de beaux restes, c'est le Vatican, et à Radio Vatican, le français de France est toujours de rigueur.
Oui, oui, oui. Ah ben ça, c'est une volonté des responsables de la radio. Mais évidemment, le Vatican émet sur toute la planète et se destine beaucoup à un public francophone. Le français a failli disparaître à la radio, mais il y a eu une levée de bouclier.
Des évêques africains
qui ont dit mais comment ce n'est absolument pas possible. Et on sait qu'en plus le renouveau catholique vient en partie de terre africaine, donc c'était un comble que le français disparaisse quand même à la radio. Vatican.
Mais dans la rédaction de Radio Vatican, il y a des Belges, des Suisses.
Oui, ils sont priés de, s'il vous plaît, supprimer leur belgicisme.
Voilà, 70, 90, bannis de l'antenne.
C'est totalement proscrit, absolument.
Même chose pour les accents régionaux.
Voilà. Bon, personnellement, je partage pas ce point de vue, mais c'est un état de fait.
Marie Verdier, vous vous êtes rendue à Haïti, vous avez intitulé votre reportage « Le français vibre encore ». On y parle vraiment le français comme un livre ?
Ah, on y parle un français absolument merveilleux, effectivement, comme un livre. Oui. Alors, il y a ce point commun avec Madagascar, mais il y a cette particularité en Haïti de cette richesse de production artistique, un nombre d'écrivains, d'auteurs de pièces de théâtre, etc. Et vraiment dans les décombres de Port-au-Prince, parce que vraiment on peut parler des décombres de Port-au-Prince.
Après le tremblement de terre de 2010,
hein, la ville n'a pas été reconstruite. Et vraiment, dans ces ruines, vous avez des jeunes qui se réunissent, qui rencontrent des écrivains, qui écrivent des poèmes, qui participent à des concours de poèmes. C'est absolument saisissant. Là, pour le coup, je pense que c'est vraiment unique au monde.
On va continuer à parler francophonie avec Bernard Cerchilini, président du comité scientifique du DDF, le dictionnaire des francophones, qui devrait voir le jour sur le web courant 2020.
C'est un projet merveilleux. Comme vous le savez, il résulte à la fois d'une conception et d'une perception du président de la République qui a compris que le français était mondial. Il a dit dans un discours, le français s'est émancipé de la France, et qui a souhaité que la France fût à l'initiative d'un dictionnaire du français mondial. Nous avons répondu au président que c'était une magnifique idée à condition de passer par une réalisation numérique. Le numérique est à la fois l'outil qui va permettre de réaliser ce dictionnaire et l'image de la variété, de la richesse, de la diversité de ce français.
Alors cette plateforme participative, elle va fonctionner un peu comme Wikipédia ?
Il y a un peu de cela. Le projet est fondamentalement numérique. Il est à la fois cumulatif et participatif. Je vous explique. Cumulatif au sens où il ne s'agit pas d'écrire un dictionnaire de A à Z, comme l'ont fait Pierre Larousse et Émile Littré, comme le fait l'Académie française, mais plutôt de concevoir une plateforme qui va chercher des informations qui existent déjà sur l'Internet. Beaucoup de dictionnaires sont numérisés et nous leur donnons accès. C'est aussi participatif dans la mesure où il y aura une application, comme on dit, sur un téléphone qui permettra à tout le monde de rentrer des mots. Il y a dans le monde entier de la francophonie du vocabulaire, des expressions que chacun aime, apprécie, et chacun pourra les rentrer. Il y a donc un côté Wikipédia au sens, on cumule de l'information et on participe à son progrès.
Donc l'objectif, c'est de montrer aussi à quel point le français peut évoluer et s'enrichir grâce aux participations des francophones du monde entier.
C'est pour cela que les réalisateurs l'ont appelé, très joliment, le dictionnaire des francophones. Au départ, on pensait de la francophonie ou des francophonies, mais après tout, le français vous appartient, m'appartient, appartient à tous ceux qui le parlent, ça sera le dictionnaire des francophones. Ils vont participer à ce dictionnaire, ils vont, j'espère, se l'approprier. Tout le monde aura sur son téléphone un dictionnaire du français mondial.
Alors, les gens vont envoyer leurs propositions et ensuite, vous allez faire une sélection ?
Pour l'instant, il s'agira de faire rentrer le plus possible de mots. Donc, de donner accès, premier aspect, au plus grand nombre de bases de données possible, des bases françaises, québécoises, belges, etc. D'autre part, de faire rentrer aussi par une participation personnelle. La première phase, on cumule, on additionne, pour dépasser la dimension des dictionnaires usuels. Il y a des millions de mots en français. La deuxième phase, ça sera dans l'esprit de l'Internet et Wikipédia, le contrôle. Bien sûr, il faudra bien un moment trier, contrôler, vérifier. Et le conseil scientifique que j'ai l'honneur de présider se préoccupe beaucoup de mettre en place un réseau d'experts, des linguistes, des spécialistes de la langue française dans le monde entier qui accepteront bénévolement, esprit aussi de l'Internet, de contrôler et de filtrer tout cela.
Un dictionnaire riche de mots et d'expressions venues de toute la francophonie sur son téléphone. J'imagine que vous applaudissez, Marie Verdier.
Ouais, je trouve l'idée excellente, bien sûr.
Alors, un peu plus surprenant et un peu plus alarmant peut-être, je reviens à la Belgique, vous racontez le raz-de-marée de l'anglais au sein des institutions européennes avec des chiffres assez hallucinants.
Oui, ben le français était bien sûr une langue de travail, reste une langue de travail, mais c'était une langue de travail presque obligatoire, j'allais dire, et les fonctionnaires et les diplomates des différents pays, avant de venir à Bruxelles dans les institutions européennes, apprenaient le français, parce que ne pas parler français, c'était un vrai handicap, finalement. Et donc, mais ça a été abandonné, et on voit le résultat en quelques années, il y a 20 ans, plus d'un tiers, 35% de la production de documents à la Commission à Bruxelles était directement écrit, rédigé en français. Et après, il y avait des traductions. Voilà. Même pas 20 ans après, ce chiffre est tombé à 4%.
Contre 83% rédigés en anglais.
Voilà. Oui, oui. Et alors, c'est un handicap parce que, y compris dans les services de la diplomatie européenne, il n'y a plus assez de francophones, alors qu'on a, bien sûr, affaire à beaucoup de pays pour qui la langue française est la langue de communication première.
Est-ce que le Brexit va changer la donne ?
Non. Très brièvement, non. Il a été clairement dit non.
Et est-ce que la France a baissé les bras à Bruxelles ?
Oui. Ben c'est, on reproche à la France, beaucoup de francophones reprochent à la France justement de ne pas avoir mené ce combat du maintien du français dans les institutions.
On peut saluer le Québec qui, lui, est à la pointe du combat justement pour que le français ne disparaisse pas.
Oui. Et le Québec reproche souvent à la France de ne pas être assez tenace à ses côtés parce que, effectivement, les innovations du français viennent quand même beaucoup de nos amis québécois.
Et les Québécois essayent de trouver des solutions de rechange pour contrer les anglicismes.
Oui, ben ils veulent montrer que le français est pas simplement une vieille langue, qu'elle peut montrer aussi incarner les changements du monde et de la modernité, et donc qui sont les premiers à batailler pour dire tout de suite il faut une alternative, parce que quand l'anglais, dès qu'il s'est imposé, c'est extrêmement dur de le faire reculer.
Et par exemple, au lieu de chatter sur le web au Québec, on clavarde. Voilà. Merci beaucoup Marie Verdier d'avoir été notre invitée. Je renvoie nos auditeurs au livre collectif que vous avez dirigé, Le Tour du Monde du Français, paru à la librairie Vuibert. Merci à Guillaume Ploquin qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand et Marion Lestel qui m'ont aidé à la préparer. À demain et portez-vous bien.
Merci.